Chapitre 36. Sous un chêne. Le soleil était bien au-dessus des pics lorsque Karédé émergea des arbres, se dirigeant vers le défilé de Malvide à quelques deux lieues devant lui. Point le plus étroit de la brèche de Molvein, ce passage accueillait la route qui allait d'Éboudard à Lougard, à une demi-lieue de la position du général de Bagnères. Mais bien avant la brèche, il trouverait le camp qu'Ajimbura avait localisé pour lui. L'homme des collines de Caen Sada n'ayant pas été fou au point d'y entrer, Karédé ne savait toujours pas s'il se ruait pour rien dans un piège mortel. Pour rien? Non, sûrement pas. Pour la haute dame Tuon. Tous les gardes de la mort étaient prêts à périr pour elle. À leurs yeux, il n'y avait pas de différence entre l'honneur et le devoir, et ce dernier consistait souvent à tomber d'un cœur léger. Dans le ciel, seuls quelques nuages blancs inoffensifs dérivaient lentement. Aujourd'hui, il ne pleuvrait pas. Parfait, ça. Depuis toujours, Karédé rêvait de mourir sous le soleil. Son détachement était réduit au minimum. Comme éclaireur, Ajimbura, monté sur son cheval marron aux pieds blancs. En témoignage de sa ferveur, le petit homme musclé avait coupé sa natte rousse striée de blanc. Au fil de leurs interminables querelles, les tribus des collines prélevaient ces nattes sur les cadavres de leurs ennemis. Ne pas en arborer une revenait à se déshonorer aux yeux des familles et des tribus. Une façon de proclamer sa lâcheté. La ferveur d'Ajimbura ne s'adressait pas à la haute dame ni au trône de cristal, mais à son chef. Cela dit, la ferveur de Karédé pour les deux était telle que ça revenait au même. Deux gardes de la mort chevauchaient derrière leur chef, leur armure rouge et blanc polie au point de scintiller, comme la sienne. Arta et deux jardiniers suivaient à pied, hache sur l'épaule, leurs longues jambes leur permettant de soutenir le rythme des chevaux. Leur armure aussi brillait intensément. Ses longs cheveux gris tenus par un ruban rouge vif, Mélitène, la Dersuldam de la haute dame, avançait sur un étalon gris, la chaîne d'argent d'un Adam attachée à son poignet gauche, la reliant au cou de Mylène. Pour rendre le duo plus impressionnant, on n'avait pas pu faire grand-chose. Mais la dame et la robe bleue de Mélitène, avec des panneaux rouges sur le corsage et la jupe, chacun arborant un éclair d'argent fourchu, devraient attirer l'attention. Tout ça pris en compte, nul ne remarquerait Ajimbura. Le reste des hommes de Karédé était avec Musenge, au cas où il s'agirait vraiment d'un piège mortel. Le général de Bagnères avait envisagé d'utiliser une autre damane que Mylène. La petite femme dont le visage ne permettait pas d'estimer l'âge tressaillait d'impatience, à l'idée de poser de nouveau les yeux sur la haute dame. Un comportement inconvenant, à coup sûr. Mais sans Mélitène, elle ne pouvait rien faire, et en tant qu'arme, elle ne valait rien du tout. Une simple constatation qui lui avait fait baisser les yeux, quand Karédé l'avait émise devant la Dersuldam. Il avait fallu consoler Mylène, sa Suldam lui caressant la tête et vantant la beauté des feux du ciel qu'elle était capable de générer. Sans parler de ses talents pour la guérison. Repenser à ce don suffisait à faire frissonner Karédé. Dans l'absolu, pouvoir faire disparaître des blessures semblait merveilleux. Pourtant, il aurait fallu qu'il soit à l'article de la mort pour autoriser qui que ce soit à le toucher avec le pouvoir. Cela dit, si ça avait pu sauver Kalia, sa femme... Bref, les armes étaient restées avec Musenge. S'il devait y avoir une bataille aujourd'hui, elle ne serait pas de ce genre-là. Le premier cri d'oiseau que capta Karédé ressemblait à tous ceux qu'il avait entendus durant la matinée. Mais il se répercuta devant lui, presque à l'infini. Un seul appel, chaque fois. Plissant les yeux, Karédé repéra en haut d'un chêne un arbalétrier qui le visait, tandis qu'il chevauchait. L'homme n'était pas facile à voir, avec son plastron et son casque peint en vert, pour se fondre à la perfection dans le feuillage. Mais le foulard rouge qu'il portait autour d'un bras le trahissait. S'il avait vraiment voulu se cacher, il aurait dû le retirer. Karédé désigna la sentinelle à Ajimbura, qui lui sourit avant de se laisser dépasser par son chef et les deux gardes de la mort. Aujourd'hui, il cachait son coutelas sous sa veste, car on devrait le prendre pour un banal serviteur. Très vite, Karédé entra dans le camp où on ne voyait pas l'ombre d'une tente, juste une longue ligne de chevaux attachée à une corde tendue entre des piquets. L'endroit grouillait d'hommes en armure verte, qui suivirent des yeux la petite colonne du général de Bagnères. Parmi ces guerriers, très peu étaient debout, et moins encore brandissaient une arbalète. La plupart dormaient, enroulés dans leurs couvertures, sans doute pour se remettre des fatigues d'une longue chevauchée nocturne. Le signal, à l'évidence, leur avait indiqué que Karédé et ses hommes ne représentaient pas un danger. Les soldats ennemis paraissaient être entraînés et aguerris, exactement ce qu'avait prévu Karédé. En revanche, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils soient si peu. Bien sûr, d'autres se cachaient peut-être dans la forêt, mais il ne pouvait pas y avoir plus de 7 ou 8 000 hommes, bien trop peu pour mener la campagne de harcèlement que Loon avait décrite. L'estomac de Karédé se noua. Où se cachaient donc les autres? La haute dame était-elle avec une bande différente? Normalement, Ajimbura devait être en train de compter mentalement celle-là. Un petit homme monté sur un grand cheval baie vint barrer le passage à Karédé, qui dut tirer sur ses rênes pour ne pas le percuter. Le front rasé, l'étrange individu était allé jusqu'à le poudrer. Pourtant, ce n'était pas un damoiseau sans envergure. Par-dessus sa veste noire, apparemment en soie, il portait le même plastron que les autres. Le regard dur et froid, il observa Méliten et Mylène, puis s'attarda sur les ogiers. Enfin, sans broncher d'un pouce, il riva les yeux sur Karédé.
« Le seigneur Matt nous a décrit ton armure, »
dit-il, son débit encore plus rapide que celui des Altariens.
« À quoi devons-nous l'honneur d'une visite des gardes de la mort ?»
Le seigneur Matt, c'était qui celui-là ?
« Fauric Karédé, »
se présenta le général de Bagnères.
« Je veux parler à l'homme qui se fait appeler Tom Merilyn. »« Talmanès de Lovind, »
dit le type, renouant avec la courtoisie la plus élémentaire.
« Tu veux parler à Tom ? Eh bien, je n'y vois pas l'inconvénient. Je veux même te conduire à lui. »
Karédé talonna Aldazar et suivit Delovind. Le militaire n'avait pas évoqué ce qui tombait sous le sens. Karédé et ses compagnons ne seraient pas autorisés à repartir et à clamer sur tous les toits la position de cette armée. Décidément, c'était un individu poli. Non, il ne serait pas autorisé à repartir, sauf si le plan audacieux de Karédé fonctionnait. Musenge lui avait accordé 1 chance sur 10 et 1 sur 5 de survivre. Pour sa part, il était plus pessimiste, mais le jeu en valait la chandelle. Si Tom Merilyn était là, il y aurait de bonnes chances que la haute dame le soit aussi. Delovind mit pied à terre dans une clairière où se déroulait une étrange scène domestique. Sur des tabourets pliables ou des couvertures, des gens étaient assis sous un grand chêne, autour d'un petit foyer où une bouilloire chauffait au-dessus des flammes. Karédé descendit de cheval et fit signe à Ajimbura et aux gardes de l'imiter. Méliten et Mylène restèrent en selle, histoire d'avoir une vue plongeante sur le site. Sur un des tabourets, concentré sur un livre, Karédé identifia maîtresse Anan, l'aubergiste qu'il avait connue pendant son séjour à Eboudar. Elle ne portait plus une des robes si provocantes qu'il adorait, mais un petit couteau pendait toujours entre ses seins voluptueux. Refermant son livre, elle salua Karédé comme s'il revenait à la vagabonde après une courte absence. Dans ses yeux noisettes, il ne lut rien d'inquiétant. Le piège était peut-être plus sophistiqué que l'avait cru le limier nommé mort. En face d'une femme mince aux multiples tresses ornées de perles, un homme élancé à la longue moustache était assis sur une couverture, devant un plateau de jeu. Jetant un coup d'œil à Karédé, il secoua la tête, puis recommença à étudier la position des pièces. La femme regarda le général de Bagnères et ses compagnons avec une haine presque palpable. En face d'un gamin d'une laideur remarquable, un vieux type tout ridé jouait à un autre jeu sur un carré de tissu rouge déroulé à même le sol. Tous deux se levèrent, l'enfant étudiant avec intérêt les ogiers. L'homme, lui, porta une main à sa ceinture, comme s'il voulait dégainer l'arme cachée sous sa veste. Un gaillard méfiant et dangereux. Tom Merilyn, peut-être. Deux hommes et deux femmes assis sur des tabourets conversaient au moment de l'arrivée du général de Bagnères. Comme un seul, ils se turent, et une des femmes, à l'air peu commode, se leva et riva ses yeux bleus sur Karédé, comme si elle entendait le défier. À la façon de certains marins, elle portait un baudrier auquel était accrochée une épée. Les cheveux coupés courts, mais pas selon l'éthique du sang inférieur, elle arborait des ongles pas assez longs sur lesquels ne brillait aucun vernis. Pourtant, Karédé reconnut sans l'ombre d'un doute Egeanine Tamarat. Un costaud aux cheveux aussi courts qu'elle et à la barbe à la mode ilianienne se leva aussi, la main sur la poignée de son épée. Dans ses yeux, Karédé vit briller le même défi que dans ceux de sa compagne. Une jolie femme aux longs cheveux noirs, la bouche en cœur, finit elle aussi par se lever. Un instant, Karédé crut qu'elle allait tomber à genoux et se prosterner devant lui, mais elle n'en fit rien et soutint son regard. L'autre homme, coiffé d'un étrange chapeau rouge, éclata de rire, et enlaça celle qui devait être sa bien-aimée. Le sourire triomphant qu'il adressa à Karédé n'avait rien d'amène.
« Tom !»
dit Delovind.
Je te présente Fourik Karédé. Il veut parler à l'homme qui se fait appeler Tom Merrilin. »
L'homme à la longue moustache blanche se leva péniblement, comme s'il avait la jambe droite raide. Une blessure de guerre, peut-être.
« Avec moi ? Mais je ne me fais pas appeler Tom Merrilin. C'est mon nom, bien que je m'étonne que tu le connaisses, Fourik Karédé. Que veux-tu ? »
Karédé retira son casque. Avant qu'il ait pu parler, une superbe femme aux yeux marrons apparut, suivie par deux autres. Les trois arboraient ce fichu visage d'Aes Sedai qui paraissait un moment avoir 20 ans, puis affichait l'instant d'après le double, voire le triple d'années. Un phénomène très déconcertant.
« C'est Shireyn !»
s'écria la première femme en désignant Mylène.
« Relâchez-la !»«
Tu ne comprends pas, Jolene, »
dit une de ses compagnes. Les lèvres fines et le nez étroit, elle semblait du genre à casser des pierres avec ses dents.
« Ce n'est plus Shireyn, et elle nous trahirait si elle en avait l'occasion. »
« Teslin a raison, Jolene, »
dit la troisième femme. Jolie, plus que belle, elle arborait une crinière noire qui cascadait jusqu'à sa taille.
« Oui, elle serait capable de nous trahir. Je n'y crois pas !»
s'écria Jolene. Elle foudroya Mélitène du regard.
« Libérez-la ou... »
Soudain, sa voix s'étrangla.
« Je t'avais prévenu !»
lâcha Teslin. Déboulant sur un étalon noir, un jeune homme coiffé d'un chapeau noir à large bord s'arrêta en catastrophe et sauta de selle.
« Que se passe-t-il ici ? »
demanda-t-il en se dirigeant vers le feu. Karédé ignora le nouveau venu. La haute dame Tuon venait d'arriver aussi, montée sur une bête à la robe noire et blanc, telle que Karédé n'en avait jamais vue. La tête enveloppée d'un foulard rouge, c'est Lucia chevauchait près de sa maîtresse. Mais Karédé n'avait Dieu que pour la haute dame. Même si de courts cheveux noirs couvraient son crâne, il l'aurait reconnue entre mille. Elle accorda un bref regard au général de Bagnères, puis riva les yeux sur le type au chapeau noir. Karédé se demanda si elle l'avait reconnu. Probablement pas. De l'eau avait coulé sous les ponts depuis le temps où il servait dans sa garde rapprochée. Sans avoir besoin de regarder derrière lui, Karédé devina qu'un garde tenait désormais les rênes du cheval d'Ajimbura. Apparemment sans armes, sa natte coupée, le petit homme n'aurait aucun problème à sortir du camp sans attirer l'attention des sentinelles. En plus d'être furtif, Ajimbura était un excellent coureur. Très bientôt, Musenge saurait que la haute dame était ici.
« Elle nous isole de la source, Matt !»
dit Jolene. Le jeune homme retira son chapeau et approcha du cheval de Mélitène, comme s'il avait l'intention de le prendre par la bride. Même si ce n'était pas un géant, ce Matt avait de longues jambes, et il portait un foulard noir autour du cou. Le signe caractéristique de celui que tout le monde appelait le jouet de Tailin, comme si avoir été le chiot de la reine suffisait à caractériser un homme. Encore que, c'était peut-être suffisant, au fond. Les chiots avaient rarement des qualités cachées. Bizarrement, ce type ne paraissait pas assez beau pour être un mignon, mais il avait quand même fière allure.
« Dissipez les boucliers !»
dit-il à Mélitène, comme s'il s'attendait à être obéi. Karédé fronça les sourcils. Ça, un mignon ? Mélitène et Mylène poussèrent un petit cri à l'unisson. En réponse, le jeune homme éclata de rire.
« Vous voyez, votre pouvoir ne marche pas sur moi. Bon, dissipez ces fichus boucliers, sinon je risque de vous faire tomber de selle pour mieux vous flanquer une fessée. »
Mélitène se rembrunit. Très peu de gens osaient parler ainsi à une Dersuldam.
« Dissipez les boucliers !»
ordonna Karédé.
« La marade d'Aman allait s'unir à la source !»
se défendit Mélitène.
« Qui peut dire ce qu'elle...
« Dissipez les boucliers !»
répéta Karédé.
« Et coupez-vous du pouvoir !»
Le jeune homme hocha la tête, satisfait, puis il se tourna vers les trois Aes Sedai, braquant un index sur elle.
« Ne commencez pas vos bêtises, vous ! Elle a lâché le pouvoir et vous allez en faire autant ! Allez !»
De nouveau, il hocha la tête, comme s'il était sûr d'avoir été obéi. À la façon dont Mélitène le regarda, tout laissait penser que c'était le cas. Un achaman ? Possible. Un homme en noir pouvait-il sentir qu'une damane canalisait le pouvoir ? C'était improbable, mais quelle autre explication postuler ? Cela dit, ça ne collait pas avec la façon dont Tailin avait traité son jouet.
« Un de ces jours !»
grinça Jolene.
« Quelqu'un t'apprendra à respecter les Aes Sedai, Matt Cotton. J'espère être là pour voir ça !»
La haute dame et Selucia rirent à gorge déployée. Karede se réjouit de voir que la première n'avait pas perdu le moral en captivité. Sans nul doute, la présence de la seconde l'y avait aidé. Mais il était temps de passer à la suite, le pari fou du général de Bagnères.
« Général Merylin, dit-il, tu as livré une courte mais remarquable campagne, et avoir caché ainsi tes troupes est un grand exploit. Mais ta chance tournera bientôt. Le général Chisen a percé ton plan à jour. Du coup, il sera là dans 2 jours, après avoir traversé le défilé de Malvide. Moi, j'ai 10 000 hommes non loin d'ici, de quoi vous empêcher de filer jusqu'à ce qu'il soit là. Mais la haute dame Tuon serait en danger, et je ne veux pas que ça arrive. Confie-la moi, et je vous laisserai filer, tes hommes et toi. En galopant, vous serez de l'autre côté des montagnes dans la brèche de Molvain, avant l'arrivée de Chisen. Au Murandi, il ne pourra pas vous tomber dessus. L'autre option, c'est l'anéantissement. Chisen a assez d'hommes pour ça, croyez-moi. Ce ne sera pas une bataille. 100 000 hommes contre 8 000, j'appelle ça une boucherie.
Tout le monde avait écouté Karede avec stupéfaction, comme si son discours était une révélation. Les compagnons de Merylin étaient-ils choqués par son plan qu'un ennemi venait de leur révéler? Merylin lissa sa moustache du bout d'un index.
« Je crains que tu fasses erreur, général de Bagnères Fourik Karede. »
La voix de Merylin devint puissante, portant très loin.
« Je suis un trouvère, c'est tout. Bien supérieur à un barde de cour, c'est vrai, mais sûrement pas général. En revanche, ce brave garçon est le seigneur Matrim Cotton. »
Il désigna l'étrange type qui remit son chapeau sur sa tête. Karede n'en crut pas ses oreilles. Un chef de guerre, le jouet de Tailin? Quelqu'un se payait sa tête?
« Tu as 100 gardes et 20 jardiniers, » dit calmement Cotton. D'après ce qu'on m'a dit, contre des soldats lambda, même 6 fois plus nombreux, ça reste un sacré morceau à avaler. Mais les bras rouges ne sont pas des combattants ordinaires, et j'en ai bien plus que 600. Quant à Chisen, si c'est le type qui s'est retiré par le défilé de Malvide, il ne sera pas là avant 5 jours, même s'il a enfin compris ma manœuvre. Selon le dernier rapport de mes éclaireurs, il en est encore à avancer ventre à terre sur la route qui mène des Boudards à Lougarde. Ça nous laisse une seule question. Général de Bagnères Karede, peux-tu conduire Tuon jusqu'au palais Taracine, en me garantissant sa sécurité?
Pas seulement parce que son interlocuteur prononçait sans vergogne le nom de la haute dame, Karede eut le sentiment que Arta venait de le frapper au ventre.
Tu la laisserais partir avec moi?
Si elle te juge digne de confiance, et si tu peux la conduire au palais sans danger. Au cas où tu l'ignorerais, ta fichue armée toujours victorieuse est prête à lui trancher la gorge, ou à lui écrabouiller la tête avec une pierre.
« Je sais, »
répondit Karede, avec un calme qu'il était loin d'éprouver. Alors que la Tour Blanche s'était donné tant de mal pour la capturer, pourquoi ce Cotton relâcherait-il la haute dame? Surtout après sa courte mais sanglante campagne.
« Pour qu'elle soit en sécurité, nous sommes prêts à mourir jusqu'au dernier. » Le mieux serait de partir sur le champ.
Avant que Cotton change d'avis, ou que Karede s'éveille de son rêve diurne. Parce que ça ne pouvait pas être vrai.
Pas si vite!
S'écria Cotton.
Tuon, tu crois que cet homme peut te conduire à Eboudar sans te mettre en danger?
Karede ravala de justesse un rictus. Tout seigneur et général qu'il était, Cotton n'avait pas le droit d'utiliser ainsi le nom de la haute dame.
Je confierai volontiers ma vie aux gardes de la mort. Et à Karede plus qu'à tout autre.
La haute dame sourit à Karede. Même petite fille, elle était avare de sourire.
As-tu encore ma poupée, général de Bagnères Karede?
Karede s'inclina humblement. La façon de parler de la haute dame indiquait qu'elle était toujours sous le voile.
Désolé, haute dame, mais j'ai tout perdu lors du grand incendie de Sohima.
Ça veut dire que tu l'as gardé pendant 10 ans. Mes condoléances pour la mort de ta femme et de ton fils, même s'il est tombé en héros. Peu d'hommes entreraient dans un bâtiment en flammes. Avant de succomber, il a sauvé 5 personnes.
Karede en eut la gorge serrée. Depuis tout ce temps, elle avait suivi sa carrière et sa vie. Ivre de reconnaissance, il s'inclina humblement.
Il y en a marre.
marmonna Cotton.
Si tu continues tes courbettes, tu finiras par t'assommer contre le sol. Dès que Seleucia et Tuon auront fait leur bagage, vous filerez, puis chevaucherez ventre à terre. Talmanès, prépare la compagnie au départ. N'est pas que je mette ta parole en doute, Karadé, mais je me sentirai mieux quand nous aurons traversé le défilé.
Matrim Cotton est mon mari,
dit la haute dame d'une voix claire et intelligible. Tout le monde se pétrifia.
Je répète, Matrim Cotton est mon mari.
Karadé eut l'impression que Arta venait de le refrapper. Non, pas Arta, Aldazar. Que signifiait cette folie? Cotton, lui, faisait penser à un homme qui voit voler une flèche vers lui en sachant qu'il n'aura aucune chance de l'esquiver.
« Ce fichu Matrim Cotton est mon mari. C'est bien comme ça qu'on dit, non ?»
Cette fois, Karadé fut certain qu'il rêvait. Matt eut besoin d'une minute pour pouvoir parler. Avant ça, il aurait juré avoir attendu une heure pour être en mesure de bouger. Retirant son chapeau, il approcha de Tuon et saisit la bride de la jument rasoir. La fichue haute dame baissa les yeux sur lui, distante comme une reine sur son trône. Tant de temps à entendre ces mots dérouler dans sa tête, et voilà que tout s'arrêtait parce qu'elle avait dit quelques mots. Au moins, cette fois, il savait que ce qui venait d'arriver scellait le destin de ce fichu Matt Cotton.
Pourquoi? J'ai toujours su que tu dirais ces mots un jour, mais pourquoi maintenant? Je t'aime bien, ou je t'aime tout court, qui sait? Et j'ai adoré t'embrasser.
Matt aurait juré qu'il venait d'entendre Karadé grogner.
Mais tu ne t'es jamais comporté comme une femme amoureuse. Une moitié du temps, tu es un glaçon, et l'autre, tu la passes à me lancer des piques.
Amoureuse?
S'étonna Tuon.
Nous finirons peut-être par nous aimer, Matrim. Mais je sais depuis toujours que je me marierai pour servir l'Empire. Et comment peux-tu dire que tu savais que je prononcerais ces mots?
Appelle-moi Matt.
Seule sa mère l'appelait Matrim, quand il était dans la mouise. Et ses sœurs, quand elle racontait sur lui les histoires qu'il y fourrerait.
« Ton nom, c'est Matrim. Alors, que voulais-tu dire ?»
Matt soupira. Cette femme n'avait aucune exigence, à part n'en faire qu'à sa tête, comme toutes celles qu'il avait connues.
« Via un Terangréal, je suis allé, eh bien, dans un autre monde, peut-être. Là-bas, les gens ne sont pas vraiment des gens. En fait, ils ressemblent à des serpents. Mais ils consentent à répondre à trois questions. » Et il ne ment jamais. Moi, j'ai demandé si j'épouserais un jour la fille des Neuf Lunes. Mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Pourquoi maintenant?
Un sourire aux lèvres, Tuon se pencha sur sa selle et, avec les phalanges, laboura littéralement le crâne de Matt.
Les superstitions auxquelles tu crois sont déjà une catastrophe, Matrim. Mais je ne tolérerai pas tes mensonges. Même amusante, une menterie reste une menterie.
« Non, c'est la vérité !»
jura Matt en remettant prudemment son chapeau. Une protection, même minime.
« Tu le vérifierais si tu consentais à parler à une Aes Sedai. Toutes te diront que les Aelfines et les Eelfines existent !»«
C'est bien possible !»
intervint et dessina, comme si elle croyait être utile.
« Si j'ai bien compris, on peut aller chez les Aelfines en traversant un Terangréal dans la pierre de Théar. D'après les récits, ces êtres diraient toujours la vérité.
« Si j'ai bien compris, d'après les récits, ces êtres diraient ? C'était ça, de l'aide ?» D'ailleurs, Tuon continua à le foudroyer du regard, comme si Etessina n'avait rien dit.
« J'ai répondu à ta question, Tuon. Réponds à la mienne. »«
Tu sais que les Daman peuvent prédire l'avenir ?»
Tuon gratifia Matt d'un ton morose, comme si elle s'attendait à des railleries sur ses superstitions. Mais il se contenta de hocher la tête. Certaines Aes Sedai aussi avaient ce don.
« Avant d'arriver à Eboudar, j'ai demandé à la Daman Lydia de me prédire le mien. Voici ce qu'elle a dit. « Prends garde au renard qui fait s'envoler les corbeaux, parce qu'il t'épousera et t'emmènera au loin. Prends garde à l'homme qui se souvient des traits d'Arthur, parce qu'il t'épousera et te libérera. Prends garde à l'homme de la main rouge, car c'est lui que tu épouseras et nul autre à sa place. » C'est ta bague qui m'a mis la puce à l'oreille.
Matt passa un index sur le long bijou, et Tuon lui sourit. À peine, mais c'était bel et bien un sourire.
Un renard qui semble faire s'envoler deux corbeaux et 9 croissants de lune. Assez explicite, non? Quand tu as accompli la deuxième partie de la prédiction, me libérer, j'ai compris que tu étais le bon.
Seleucia émit un bruit de gorge, et Tuan s'adressa à elle avec ses doigts. La petite femme au merveilleux sein capitula, tirant sur son foulard. Mais elle jeta à Matt un regard qui aurait pu le foudroyer sur pied. Le jeune flambeur eut un rire sans joie, par le sang et les fichus cendres. La bague était un modèle expérimental de bijoutier, acheté uniquement parce qu'elle allait bien à son doigt. Quant à ses souvenirs d'aile de faucon, il y aurait bien renoncé en même temps qu'à tous les autres qui ne lui appartenaient pas, si ça avait pu chasser de sa tête les maudits serpents. Pourtant, grâce à tout ça, il venait de se gagner une épouse. Et la compagnie de la main rouge n'aurait jamais existé, sans tout ce qu'il savait sur les batailles grâce à de très anciens morts.
On dirait qu'être taverne me fait le même effet qu'à n'importe qui d'autre,
marmonna-t-il. Un instant, Matt redouta que Tuan recommence à lui labourer la tête. Pour l'en dissuader, il se fendit de son plus beau sourire.
Un dernier baiser avant ton départ?
Je ne suis pas d'humeur pour le moment.
La juge impitoyable était de retour. Condamnation immédiate de tous les prévenus.
Plus tard, peut-être. Tu devrais revenir à Eboudar avec moi. Désormais, tu as droit à une place honorable dans l'Empire.
Sans hésiter, Matt secoua la tête. Pour Leilouin et Domon, il n'y aurait aucune place honorable. Même chose pour les Aes Sedai ou pour les gars de la compagnie.
Tuan, la prochaine fois que je verrai des Séan Chaniens, je pense que ce sera sur un champ de bataille.
Bien sûr qu'il en irait ainsi. La vie de Matt se déroulait comme ça, quoi qu'il fasse.
Tu n'es pas mon ennemi. Ton empire, oui.
Tu n'es pas mon ennemi non plus, mon époux. Mais je vis pour servir l'Empire.
Dans ce cas, tu devrais aller faire tes bagages.
Matt se tut, distrait par le bruit d'un cavalier qui approchait au trot. Vanine tira sur les rênes de son cheval gris, l'immobilisa près de Tuon, étudia Karédé et les autres gardes de la mort, puis cracha sur le sol avant de s'appuyer au pommeau de sa selle.
« Il y a 10 000 soldats dans une petite ville, à environ 2 lieues à l'ouest, »
dit-il à Matt.
« Avec un seul Séan Chanien, d'après ce que j'ai appris. Les autres sont des Altariens, des Tarabonais et des Amadiciens. Tous des cavaliers. Le hic, c'est qu'ils se renseignent au sujet de gens porteurs d'une armure comme celle-là. »
Il désigna Karédé.
« Selon les rumeurs, celui qui tuera une fille très semblable à notre haute dame recevra 100 000 couronnes d'or. Ils en ont tous l'eau à la bouche. »
« Je leur échapperai, » dit Karédé.
Sur Tuon, il posa un regard paternel. Mais sa voix évoquait le son d'une lame qu'on tire du fourreau.
« Et si tu n'y arrives pas ?»
demanda Matt.
« Si ces types sont tellement prêts, ce n'est pas par hasard. Ils reniflent ta piste. Un bon coup de nez en plus, et ils seront en mesure d'abattre Tuon. »
Karédé se rembrunit.
« Tu as l'intention de revenir sur ta parole ?»
Une lame tirée du fourreau est prête à s'abattre. Pire, Tuon regardait Matt comme si elle s'apprêtait à le condamner pour de bon à la pendaison. Que la lumière le brûle. Si elle mourait, quelque chose en lui se briserait. Le seul moyen d'éviter ça consistait à faire une chose qu'il détestait encore plus que le travail. Naguère, il pensait que se battre, même s'il abominait ça, valait mieux que trimer. Après 900 morts en quelques jours, il avait changé d'avis.
« Non. »
dit-il.
« Elle part avec toi. Mais tu dois me laisser 10 de tes gardes et quelques jardiniers. Si je dois empêcher ces gens de te coller au basque, il faut qu'ils me prennent pour toi. »
Contrainte de voyager léger, Tuon abandonna presque tous les vêtements que lui avait achetés Matt. En revanche, elle emporta le bouquet de boutons de rose en soie qu'il lui avait offert, l'emballant dans un morceau de tissu avant de le ranger dans une de ses sacoches de sel, comme un trésor. N'ayant aucun adieu à faire, sinon à maîtresse Anan, leur conversation lui manquerait, la fille des 9 lunes fut très vite prête à partir. En la voyant, Mylène eut un si grand sourire qu'elle dut tapoter la tête de la toute petite Daman. Ce qui venait de se produire devait déjà être connu dans le camp, car lorsque la colonne la retraversa, beaucoup d'hommes de la compagnie se levèrent puis s'inclinèrent devant Tuon. C'était comme passer un régiment en revue à Séandar.
« Que penses-tu de lui ?»
demanda Tuon à Karédé quand ils furent sortis du camp. Inutile de préciser de quel « lui » elle parlait.
« Mon rôle n'est pas de juger les gens, haute dame.
Karede continua à sonder le terrain autour d'eux.
Je sers l'Empire et l'Impératrice, puissent-elles vivre éternellement.
Comme nous tous, général de Bannière. Mais je te demande ton avis.
Cet homme est un bon général, haute dame. Courageux, mais pas téméraire. Pas du genre à se faire tuer pour briller. Et il sait s'adapter. Un homme aux multiples facettes. Et si tu me permets, haute dame, il est amoureux de toi. Je l'ai vu à la façon dont il te regarde.
Amoureux d'elle, c'était possible. Et Tuon n'excluait pas de s'éprendre de lui un jour. Sa mère, disait-on, avait aimé son père. Un homme aux multiples facettes? Comme un oignon, il avait en effet une belle épaisseur de peau. Tuon se passa les doigts dans les cheveux. En avoir continuait à la perturber.
J'aurais besoin d'un rasoir.
Il serait peut-être plus prudent d'attendre d'être arrivé à Eboudar, haute dame.
Non. Si je meurs, je veux être tel qu'en moi-même. J'ai retiré mon voile.
À tes ordres, Altesse, fit Karede. Avec un sourire, il se tapa du poing sur le cœur. Si nous mourons, ce sera tel qu'en nous-mêmes.